Laudetur Jesus Christus.
Le pape Léon XIV a reçu ce jeudi matin les membres de la secrétariat d'État, l'occasion pour lui de remercier ses plus proches collaborateurs et de les exhorter à être une véritable communauté de foi et de charité. Les détails juste après ces titres. Dans l'actualité internationale, les frappes israéliennes qui se poursuivent à Gaza, Tsahal qui avec ses services de renseignement a pu rapatrier les corps de deux otages israéliens. Nous irons à Tel Aviv. À suivre dans ce journal également ce reportage en Syrie sur la côte, bastion de la communauté alaouite qui poursuit son insurrection armée contre les nouveaux maîtres du pays. Et puis nous ferons le point sur les négociations concernant le dossier du nucléaire iranien. Donald Trump s'impatiente, Téhéran veut rassurer.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le pape Léon XIV a reçu ce jeudi matin les membres de la secrétariat d'État qui travaillent à ses côtés, des fonctionnaires qui, selon ses mots, partagent avec lui les difficultés, les défis, les espérances du peuple de Dieu dans le monde entier. Leur adressant ses remerciements, le Saint-Père a reconnu dans son discours à quel point les responsabilités sont très exigeantes, parfois mal comprises. Il les a exhortés, Myriam Sandouno, à être une véritable communauté de foi et de charité.
Reconforté de ne pas se sentir seul dans sa mission, l'évêque de Rome a souligné que l'institution, dont l'histoire remonte à la fin du XVe siècle, reflète aujourd'hui le visage de l'Église. Et là, au fil des années, pris en caractère de plus en plus universel et s'est considérablement développé, note Léon XIV. De nouvelles fonctions ont notamment été acquises en raison des nouvelles exigences dans le domaine ecclésial que tant dans les relations avec les États et les organisations internationales. Actuellement, près de la moitié de cet organisme central de la Curie romaine sont des fidèles laïques et les femmes laïques et religieuses sont plus de 50. Léon XIV a ensuite prodigué des conseils utiles, souhaitant, je cite, que ce lieu ne soit pas pollué par des ambitions ou des antagonismes. Il a invité les membres de la secrétariat d'État à être une véritable communauté de foi et de charité, de frères et de fils du pape qui se dépensent généreusement pour le bien de l'Église. Il convient ainsi de toujours chercher à garder un regard catholique universel qui permet, selon lui, de valoriser les différentes cultures et sensibilités, d'où l'invitation à être un centre, un moteur qui s'engage à tisser la communion entre l'Église de Rome et les églises locales, ainsi que les relations d'amitié au sein de la communauté internationale, a soutenu l'évêque de Rome.
Merci beaucoup Myriam Sandouno. Et puis autre audience ce matin pour le Saint-Père, celle accordée aux membres de la Commission pontificale de protection des mineurs, commission instituée en 2014 par le pape François, l'occasion pour Léon XIV de rappeler sa détermination à une église plus sûre et à l'écoute des victimes. Nous y reviendrons plus en détail à 18h. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur notre site vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, l'armée israélienne a récupéré ce jeudi les corps de deux anciens otages. Ils avaient été tués lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Il s'agit de deux otages septuagénaires qui avaient été enlevés dans le kibboutz Nir Oz, situé non loin de l'enclave palestinienne. Les précisions de notre correspondante à Tel Aviv, Julia Ganancia.
C'est la fin d'un long calvaire pour la famille de ces deux otages israélo-américains. Judy Weinstein, 70 ans, et Gedi Hagai, 73 ans, avaient été enlevés de leur domicile au kibboutz Nir Oz le 7 octobre lors du massacre du Hamas. La nuit dernière, l'armée israélienne et le Shin Bet ont mené une opération nocturne complexe à Khan Younes pour récupérer leurs dépouilles. Les deux otages avaient été assassinés le jour même de leur enlèvement. Le couple avait 4 enfants et 7 petits-enfants. Dans un communiqué, la famille a déclaré « Nous allons enfin pouvoir organiser des funérailles dignes à la maison et commencer notre deuil. Cependant, notre cœur ne sera pas complètement en paix tant que les 56 autres otages ne seront pas tous de retour. » De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué l'exécution déterminée et réussie de l'opération, réaffirmant son engagement, je cite, « à ramener tous nos otages à la maison ». Fin de citation. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent inlassablement. La défense civile a communiqué ce jeudi la mort de moins 10 personnes dans de nouvelles frappes au sud-est de la ville de Gaza, Khan Younes, ou encore dans le centre de l'enclave, à Deir el-Balah. Hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, tout comme la libération sans condition des otages et l'entrée de l'aide humanitaire. Eh bien, cette résolution a essuyé un nouveau veto américain. Nous serons tous jugés par l'histoire sur ce que nous avons fait pour stopper ce crime contre le peuple palestinien, avait averti l'ambassadeur palestinien à l'ONU avant le vote. Partons à présent pour la Syrie, où près de 6 mois après la chute de Bachar al-Assad, les groupes loyalistes de l'ancien régime continuent d'appeler à la contre-insurrection armée. À la fin du mois de mai, l'ancien commandant de la 4e division du régime menaçait dans une vidéo de revenir occuper la côte alaouite où sont cachés la majorité de ses combattants. Sur place, les attaques contre la sécurité générale du nouveau gouvernement syrien et contre les activistes sont fréquentes. C'est le reportage de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
Des tirs résonnent en écho depuis les montagnes alaouites. Sur un checkpoint à l'entrée de Kardaha, village d'origine du clan Assad, Ahmad Ahmadi, membre de la sécurité générale, attrape sa kalachnikov, puis jette un regard inquiet autour de lui.
Ce sont les loyalistes au clan Assad. C'est la plus grosse menace aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se cachent dans la région. Ces tirs, c'est fréquent. Ils ciblent les civils, les points de contrôle.
Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, ils sont des centaines à préparer une contre-insurrection, près de la côte, à se cacher dans les montagnes, les fermes et les maisons.
On a un service de renseignement qui travaille activement pour les rechercher, pour suivre leurs mouvements. On fouille régulièrement la région et on trouve tous les 2 ou 3 jours une cache d'armes. Car oui, ils ont beaucoup d'armes.
Ahmad Ahmadi poursuit. 40 membres de la sécurité générale ont ici été tués à Kardaha ces derniers mois. Nada Adnan, elle, est journaliste, alaouite, opposante de longue date au régime de Bachar al-Assad et victime de 9 tentatives d'assassinat.
Il y en a eu une ici, il y a un mois. Ils ont tiré en direction de mon bureau, je me suis mise à terre. Puis la sécurité générale est arrivée. Ils ont également filmé ma maison, mis mon adresse en ligne.
De l'autre côté des murs de son bureau, une explosion, puis des tirs. Le visage de Nada Adnan se crispe, devient livide. « Soyez discret », glisse-t-elle en éteignant la lumière. « Peut-être viennent-ils à nouveau me chercher ». À l'attaquer, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Le sommet des pays de l'OTAN approche. Il aura lieu les 24 et 25 juin prochains à La Haye, aux Pays-Bas, avec toujours l'épée de Damoclès d'un désengagement américain. De nombreux pays membres de l'Alliance Atlantique ont renforcé ces derniers mois leur budget de défense sous pression de Washington. L'Allemagne annonce ce jeudi le besoin de recruter 50 à 60 000 nouveaux militaires pour ces prochaines années. L'OTAN, qui par ailleurs est très proche d'un consensus pour atteindre 5% des dépenses du PIB consacrées à leur défense, annonce à l'instant par le chef du Pentagone, Peter Hegseth. De nouveaux décrets signés hier à la Maison-Blanche par Donald Trump. Ils concernent notamment l'interdiction d'entrer sur le territoire de ressortissants de 12 pays, parmi lesquels Haïti, le Congo, Brazzaville ou encore le Soudan. Autre décret, il interdit la délivrance de visas pour les étudiants étrangers de la prestigieuse université de Harvard. La Chine, qui défendra fermement les droits de ses étudiants, a réagi tout à l'heure Pékin. Les négociations sur le nucléaire iranien au point mort ou presque entre Téhéran et Washington. Donald Trump a accusé hier les Iraniens de traîner les pieds. Depuis le mois d'avril, les deux pays ont entamé des pourparlers sous médiation omanaise destinés à aboutir à un accord censé empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. À New York, Loïc Lory.
L'Iran traîne des pieds pour prendre une décision et nous aurons besoin d'une réponse définitive dans un laps de temps très court, c'est Donald Trump qui l'affirme à propos des négociations en cours autour du nucléaire iranien. Quelques heures plus tôt, l'ayatollah Khamenei en personne avait en effet rejeté la proposition américaine, celle-ci allant, dit-il, 100% à l'encontre des idéaux de son pays. Parmi les points d'achoppement, le droit de Téhéran à enrichir de l'uranium fait figure de ligne rouge, pas d'enrichissement, pas d'accord, résumait ainsi le principal négociateur iranien. La suite semble donc bien vague, Donald Trump évoquant la possible participation de Vladimir Poutine à ces discussions, après avoir été jusqu'à menacer en avril d'une intervention militaire. Des échanges qui n'auraient sans doute aucune raison d'être si ce même Donald Trump n'avait pas quitté l'accord de 2015 lors de son premier mandat. New York, le Écloré, Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, un mot sur cette conférence internationale écuménique organisée à l'université pontificale dominicaine Angelicum à Rome à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Nous devons nous efforcer ensemble de trouver une date commune pour célébrer Pâques sans générer de nouvelles tensions ou divisions au sein de la communauté écuménique, y a déclaré notamment le cardinal Courtecor, le préfet du dicastère pour l'unité des chrétiens. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous sur notre antenne, ce sera bien évidemment à 18h. Vous serez accompagné ce soir par Alexandra Siergan et je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.